Vous allez voir, ce matin, on aborde des sujets qui ne sont pas simples, qui ne sont pas légers. On va parler ensemble de la colère de Dieu, entre autres. Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, voici ce que nous lisons. « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Et donc, c'est peut-être pas un aspect de la personne de Dieu qu'il nous plaît à méditer, à réfléchir, l'aspect que Dieu est un Dieu qui, souvent, dans la Bible, est en colère. Dieu est un Dieu qui se met en colère, vraiment, et des grosses colères. Des colères qui sont destructrices, même parce que c'est des colères qui parlent de jugement divin. Et c'est peut-être pas un aspect de la personne de Dieu qui nous plaît à méditer, d'accord? Mais on va voir ensemble l'importance de cette vérité sur la personne de Dieu et les nuances aussi à faire avec la colère humaine qui est souvent poussée par toutes sortes de motifs très égoïstes. Le dictionnaire définit le mot colère comme une irritation, un mouvement agressif à l'égard de ce qui offense. Et la colère, nous dit la Bible, est un attribut de Dieu, c'est une qualité de Dieu, c'est une des caractéristiques de Dieu. Il est le Dieu qui se met en colère. Si vous étudiez une concordance biblique, si vous prenez un ouvrage de référence qui vous permet de faire une recherche dans toute la Bible sur le mot « colère » lui-même, vous allez voir que la notion, l'idée de colère de Dieu revient extrêmement souvent. Certains disent que ça revient plus souvent même que l'amour de Dieu. Et on peut se poser la question « pourquoi ?» Et peut-être que la réponse se trouve dans le fait que Dieu est actuellement en relation avec un monde qui lui est beaucoup plus rebelle qu'obéissant, un monde où il y a beaucoup plus de péché que de sainteté, d'accord? Probablement qu'on a un bon indice, une bonne piste pour comprendre pourquoi est-ce que la colère de Dieu est tellement présente dans la Bible. Dieu est en rapport avec un monde déchu, comme on dit dans les notes. Dans le livre du petit prophète, un livre court, c'est-à-dire un livre prophétique, Nahum 1, 1 à 8, voici un extrait, on lit ceci. « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. » Ouch! « L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. » L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce passage-là? Comment vous sentez lorsqu'on lit ça? François. OK, merci François. François, souvent une petite réponse comme ça que personne n'a vu venir. Ça réconforte François. C'est ça que tu es en train de nous dire quand tu fais un peu de projection personnelle ou tu parlais pour tout le monde? On était créé à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a certaines de nos colères qui ressemblent aux colères de Dieu, c'est vrai. Malheureusement, pas assez souvent. Souvent... oui, disons que c'est pas une chiffre molle, hein? C'est un Dieu qui a du caractère, effectivement. On peut avoir confiance qu'il va intervenir et qu'il ne va pas juste fermer les yeux ou laisser plein de choses passer sans qu'il y ait de conséquences. Excellent. Oui. Oui, alors Dieu est en colère contre le mal, le péché. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez pas de problème avec ça, puis c'est facile à annoncer à un non-chrétien, c'est ça? Vas-y, Camille.
Ce qui n'est pas facile dans ce passage-là, c'est que...
Juste un petit peu plus fort.
C'est que c'est dit que Dieu garde rancune. Et selon notre point de vue, la rancune est quelque chose de mal, de péché. Alors, peut-être ça va être quelque chose à adresser le plus profondément.
Oui, absolument. Merci. OK, alors l'idée que Dieu garde rancune. Mais admettons que malgré le fait qu'on a tous nos bons raisonnements là, de bons chrétiens qui lisent leur Bible depuis des années, oui, on comprend la nécessité, on comprend tout ça, mais il demeure que c'est pas vraiment fashion, hein? C'est pas très très à la page de présenter un Dieu semblable. Disons que je m'en suis jamais servi en cognant une porte quand je faisais Gibec et j'ai jamais introduit une présentation de l'Évangile avec ce passage-là, d'accord? Quoique c'est quand même drôle, parce qu'une fois j'étais en train de cogner à des portes pendant que je faisais Gibec. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ça nous parle aussi lorsque Paul dit que dans le cœur de tout homme, il y a cette conscience de l'existence de Dieu. Je cogne à une porte et puis, monsieur bien-aimable, en principe, quand tu fais Gibec, t'es toujours à deux. Tu vas pas tout seul. Ça se peut que tu rentres, tu passes des heures, tu peux te retrouver avec une femme, tu es un homme. C'est pas idéal de se retrouver tout seul comme ça. Bon. Fait que c'est un monsieur, j'étais seul cet après-midi-là, et puis j'entre, tout ça, et puis à un moment donné, ben, il y a un de ses amis qui arrive, qui rentre dans l'appartement, puis ça n'a pas pris tellement de temps pour que je comprenne que c'était pas juste son ami, c'était son amoureux. Maintenant, on parle quand même de 15 ans en arrière au moins, même plus que ça, c'était avant le mariage. Fait que 22 ans bientôt, là, en arrière. Donc j'ai saisi ça. Celui qui m'avait invité à rentrer était intéressé à discuter des Écritures. L'autre était là puis il me lançait des petites flèches parce qu'évidemment il savait ce que les Écritures disent sur ça, sur l'homosexualité. Et puis à un certain moment donné, il s'est comme tanné puis il est venu me chercher puis il dit OK, dis-moi le don là, ce que la Bible a dit sur l'homosexualité. On était en été, la porte patio était ouverte. Puis on commence à jaser, puis j'ai dit, écoute, c'est sûr que la Bible dit que c'est un péché. Ouais, puis qu'est-ce que Dieu va faire avec les homosexuels? Puis là, je m'en vais dans Romains 1, puis on arrive à la colère, et tout d'un coup, il y a, écoute, on l'avait pas vu venir du tout, il y a un coup de tonnerre terrible à l'extérieur. On se pogne tout le cœur, et puis celui-là même qui était agressif dit, ouf, Dieu est en colère. Puis ça s'est arrêté là, mais il l'a dit un petit peu en riant, tu sais. Moi, j'avais rien dit. T'sais. C'était vraiment quand même un addon de Dieu. Disons qu'on s'était rapproché du mont Sinaï pendant une fraction de seconde. D'accord? C'est pas évident. C'est pas évident à notre époque de présenter cela. Et pour être bien, bien franc avec vous, il y a quand même pas mal de prédicateurs. Et si vous êtes branchés sur le web, puis vous suivez des gars qui sont à la mode, il y a quand même beaucoup de prédicateurs qui vont mettre ça de côté. Ça fait pas partie de ce qu'ils nous font connaître sur la personne de Dieu, d'accord? Parce que c'est pas à la page, c'est pas à la mode, et ça semble nous présenter un Dieu qui nous ressemble, comme dit François, mais dans nos aspects les plus vicieux ou les plus pervers. Camille soulevait le fait qu'il est mentionné qu'il tient rancune. Alors, pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise parfois avec cela? Mais c'est ça. On aimerait mieux voir un Dieu qui est aimable seulement, qui est un gentil monsieur qui veut juste nous faire des gros colleux, d'accord? Il semble que la cause profonde de notre malaise soit due à l'impression embarrassante que la colère est d'une manière ou d'une autre indigne de Dieu. Par exemple, pour certains, la colère s'apparente à une perte de maîtrise de soi, une crise soudaine qui est partiellement, sinon totalement, du domaine de l'irrationnel. On a l'impression que Dieu pète une coche en québécois, d'accord? Lorsqu'on dit ça. Pour d'autres, elle ressemble à la rage qui naît d'un sentiment d'impuissance ou d'orgueil blessé ou simplement à un accès de mauvaise humeur. Ce serait certainement une erreur de prêter à Dieu de tels sentiments, n'est-ce pas? Et donc, certains vont mettre de côté cette idée que Dieu puisse se mettre en colère. Et la faute qu'on fait ici, c'est que nous expérimentons la colère à travers une nature pécheresse. Et c'est difficile pour nous de concevoir ce que serait la colère si on n'était pas pécheur. D'accord? Mais tout ce qu'on expérimente se fait quand même à travers une nature pécheresse. On a une nouvelle nature qui nous est donnée par l'Esprit Saint, c'est vrai. Mais il reste que, hein, Paul dit, laissez mourir, faire mourir les œuvres de la chair. Et donc, toutes ces choses-là, même les plus saintes, les plus extraordinaires, si on pense à la sainteté de Dieu, même ça, pour nous, on l'expérimente, on l'appréhende, on le comprend. L'amour, on le comprend à travers une nature pécheresse. Alors, lorsqu'on arrive à l'amour, on va parler de l'amour, mais il y a généralement une notion de contrôle, de manipulation chez nous dans l'amour. On veut posséder l'autre au point de lui faire ce qu'on veut, d'accord? Et donc, il n'y a pas une liberté qui est là. Et donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'on vient à ces questions-là à travers notre expérience personnelle, puis on projette ce que ces mots-là veulent dire chez nous dans la personne de Dieu. D'accord? Oui. Ah, salut Gérard. Je t'avais pas vu.
Un des facteurs que l'on vit souvent ici, à cause de notre nature pécheresse, comme tu dis, c'est que on a une permissivité. On voudrait que Dieu tolère notre péché. Et on voudrait que Dieu tolère ceux qui ne se repentent pas. On voudrait que Dieu ait une patience à ne jamais se manifester. Mais à quelque part, il est en guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi ne fait que cela, irriter Dieu. Mm-hmm. Et c'est là qu'est sa jalousie. C'est une jalousie envers Dieu qui a fait une création qui ne lui remet pas la confiance en tout cela. Alors, et nous, on a de la misère à ça. En tant que parent, j'ai vécu ça. Ah, c'est pas pour punir mes enfants, ils sont pas coupables. Là, ils recommencent une deuxième fois. Là, on se demande à quel niveau qu'on va les... Et c'est un processus qu'on doit apprendre. Mm-hmm. La justice. Et c'est vrai qu'on est créé à l'image de Dieu, mais ne nous sommes-nous pas appelés à être transformés à son image maintenant?
C'est ça.
Parce que le péché nous a détruits et on ne comprend plus c'est quoi la tolérance. On n'a plus de juste milieu de quoi que ce soit. Et Dieu doit nous donner sa direction continuelle à travers ça.
Excellent. Merci, Jean. Donc, c'est ça, un élément que tu ajoutes au début de ce que tu as mentionné. Je pense que notre malaise avec la colère de Dieu vient en partie du fait qu'on projette en Dieu ce qui est pour nous de la colère. C'est très rare qu'on se met en colère puis que c'est comme toute clean l'affaire, d'accord? En général, il y a du péché dans ça. Ça va arriver. Vous allez lire sur des injustices dans les médias. Vous allez lire sur des violences faites à des personnes en position de faiblesse. Et puis, il va y avoir de la colère et il n'y a pas nécessairement un once de péché dans ça, d'accord? Donc, d'une part, on projette la colère que nous expérimentons. Puis là, on dit, ça se peut pas que Dieu soit comme ça. Puis d'autre part, je pense aussi qu'il y a justement ce que Gérard vient de relever. C'est l'idée que on se dit, ouais, mais si Dieu est vraiment comme ça, j'ai pas beaucoup de chance. Et donc, on veut s'imaginer un Dieu qui ne sera pas aussi juste, puis qui ne sera pas aussi intervenant et punitif envers le mal, parce qu'on voudrait qu'il nous donne une chance, puis qu'il donne une chance à tout le monde. Puis, tu sais, donc, d'un autre côté, on ne voudrait pas qu'il soit aussi juste que les Écritures nous disent. Il n'y a aucune injustice dans la colère de Dieu, mais au contraire, elle est l'expression de la sainteté et de la justice de Dieu devant l'injustice des hommes. On l'a mentionné. Prochain paragraphe, la Bible nous dit que la colère de Dieu est quelque chose que les hommes choisissent délibérément. Fait que, J.I. Packer fait tout un argument qui est basé sur un raisonnement. Si vous avez lu un peu de C.S. Lewis, il y a un raisonnement qui est juste, je crois, je ne le pousserai pas trop loin, là. Mais dans le fond, C.S. Lewis, Packer disent, Dieu sera toujours juste de se mettre en colère contre le pécheur parce qu'il ne donne au pécheur que ce qu'il a demandé. D'accord? Dans le sens que le pécheur est rebelle contre Dieu, le pécheur ne veut rien savoir de Dieu. Puis c'est un peu comme si Dieu faisait une transaction. C'est un peu comme si Dieu disait, écoute, je te supplie d'arrêter de faire le mal, je te supplie de marcher dans la sainteté, mais comme tu ne veux pas le faire, je vais te donner ce que tu demandes. D'accord? Ça va plus loin que ça, et pour moi, c'est important. C'est pour ça, sur cet argument-là avec C.S. Lewis, je pense que dans un souci de vouloir comme trouver une manière raisonnable de présenter la justice de Dieu, le châtiment éternel à une société qui rejette ça, je pense que C.S. Lewis va un petit peu trop loin. Et pour moi, c'est important de revenir à des passages comme ceux-là. Dieu est pas à quatre pattes en train de nous supplier d'arrêter de faire le mal. Dieu nous aime. Dieu pleure, définitivement Jésus pleure sur Jérusalem, d'accord? Donc Dieu n'est pas heureux avec le mal dans la société, c'est très très clair. Mais Dieu est saint. Dieu est saint et à partir du moment où tu te lèves, tu y craches en pleine face, tu mérites juste de mourir. Et sa sainteté va être aussi réactive que si tu avais décidé de toucher un courant électrique. Je prends souvent ça comme illustration. Hier soir, avec Bastien, on est allé voir le dernier Spider-Man. Il y a Electro là-dedans. Ben, Electro, même s'il voulait te faire un gros colleux, tu ne veux pas y faire un gros colleux. Comprenez? Parce qu'il ne peut pas être Electro. Et donc, il y a cet aspect-là qui est exprimé à travers la colère de Dieu. Dieu n'est pas là en disant, je suis désolé les copains, j'aimerais ça, pas être ce que je suis, il va falloir que je vous donne pour l'enfer, si seulement vous aviez voulu arrêter de faire ça, vous comprenez? C'est pas ça la description que j'ai. Dieu est le centre de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses, Dieu soutient toutes choses. Ben, c'est pas ben brillant de te lever debout puis de cracher en pleine face. Point. Après ça, assume. Et donc, c'est ça qui est en train de se manifester. Maintenant, la colère de Dieu puis la justice de Dieu, ce n'est pas tout sur Dieu. Et c'est pour ça qu'on arrive à la croix. C'est pour ça qu'on voit la grâce. C'est pour ça qu'on voit l'amour. D'accord? Mais quand je veux saisir qui est Dieu, j'ai pas, et c'est ça l'erreur, je pense, qu'on fait. Là-dessus, c'est quand je prendrai un café avec M. Lewis, qui m'édifie énormément. Quand on ira prendre un petit café au ciel, on ira faire une discussion ensemble. Mais je pense que l'erreur qu'on fait des fois, c'est qu'on veut comme diminuer un attribut qui nous rend mal à l'aise pour pouvoir en mettre un autre en valeur. Mais inévitablement, si Dieu affirme qu'il est de telle ou telle manière, si j'en viens à diminuer un aspect de la personne de Dieu, il y a quelque chose sur Dieu, il y a quelque chose sur son message que je suis en train de manquer. Et dans ce cas-là, hein, il y a littéralement quelque chose sur l'Évangile que je suis en train de manquer. D'accord? Je suis en train de manquer le fait que Dieu a maudit son Fils. Comprenez? Quand Dieu s'est élancé et a frappé son Fils parce qu'il a été chargé du péché de l'humanité, c'était un déchirement profond qui était... Et cet acte-là était poussé par autant de colère contre le mal que d'amour et de déchirement. D'accord? Et c'est pour ça que Christ s'écrit et dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que tout d'un coup... Il a été maudit par le Père. Il a reçu la colère divine. Et si je réduis cet aspect-là de la colère de Dieu, il y a quelque chose de la gloire extraordinaire de l'Évangile que je perds. Est-ce que vous me suivez? Ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a pour qui ça ne fait pas de sens ce que je dis? Je peux prendre quelques instants sur ça, c'est vraiment important. Mais si ça va, je vais avancer. D'accord? Alors la question, ce n'est pas est-ce que ça fait partie de la personne de Dieu? La question, c'est comment je peux comprendre cet attribut de Dieu vraiment bien au point d'être capable de le présenter lorsque je vais parler de l'Évangile? Ça ne veut pas dire que lorsque je rencontre quelqu'un dans le métro, j'ai 2 minutes, il faut que je place la colère de Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au fur et à mesure des rencontres, on discute sérieusement de l'Évangile, il faut que je puisse adresser cette question-là. Il faut que je sois à l'aise de le faire. Et par exemple, vous m'avez entendu souvent le répéter, c'est un des éléments les plus importants lorsqu'on parle du mal dans le monde. Quand John Piper s'est fait poser la question, vous vous rappelez, quand il s'est fait poser la question, « Mais où est Dieu? Mais où est Dieu devant toute la violence dans le monde? Mais où est Dieu? » C'est quoi la réponse de Piper? Il est en train de prendre des notes. Il prend constamment des notes. Dieu garde rancune au mal des hommes. Et une montagne de colère est en train de s'accumuler contre le mal que les hommes font. Fais-toi-en pas. Il n'y a pas une seule injustice, une seule souffrance, aucune victime qui a été abusée, qui n'a pas été remarquée par Dieu et pour qui il n'y aura pas des comptes à rendre. Voyez-vous? Donc, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de cette réalité-là. OK, mais pourquoi est-ce qu'il attend? Parce qu'il voudrait que tu te convertisses avant qu'il ne te frappe. Parce qu'il voudrait que tu saisisses sa grâce avant qu'il ne te détruise. Et c'est vrai pour tout le reste des hommes. C'est sa patience. C'est sa grâce. Voyez-vous, je suis en train de balancer, je suis en train de me promener d'un attribut, d'une qualité à l'autre, sans en étouffer une ou l'autre, pour vraiment présenter la gloire de l'Évangile et d'un Dieu qui, au fond de nous-mêmes, comme mes deux amis que je suis allé visiter, j'ai cogné à la porte, puis c'est la colère de Dieu. Oui, c'est ça. Tu le sens ici, c'est la colère de Dieu. Un jour, tu vas te présenter devant lui. D'accord? Oui, Karine.
Dans l'Apocalypse, est-ce que c'est pas ça qu'on voit? Un gros bain de sang?
Absolument. Absolument. Et donc, c'est pas... Oui, alors Karine, bon, vous avez entendu dans l'Apocalypse, est-ce que c'est pas ça qu'on voit? C'est pour ça que je vous répète, j'ai répété à plusieurs reprises l'exemple avec mon ami qui est un gars super brillant, puis qui dit, moi, je suis un demi-chrétien, l'Ancien Testament, du l'Ancien Testament, pas capable. Jésus, super cool. Ouais, tu t'es pas rendu jusqu'à l'Apocalypse, toi. C'est Jésus qui parle de la GN puis de l'enfer le plus dans toute la Bible, tu sais. Fait que je comprends qu'il est en gougoune, puis qu'il faisait des gros colleux à prostituer, à verser une larme. Je comprends tout ça. Ça, c'est la grâce, c'est l'amour. Rends-toi jusqu'à la fin aussi, par exemple. D'accord? Parce que celui qui ne se repent pas, ça va être lui le juge. Et donc, c'est ça qu'on voit apparaître dans l'Apocalypse. Quand tu lis l'Apocalypse, c'est le livre du Nouveau Testament qui ressemble le plus à l'Ancien Testament dans les accents, dans les tons. Après ça, si tu en veux un deuxième qui ressemble le plus à l'Ancien Testament, ce sont les Évangiles. Un pasteur m'a dit, si tu veux réformer l'Église, va vers le plus radical, va vers Jésus. D'accord? Paul est gentil comparé à Jésus. Il est doux. Oui, c'est correct. Tu sais, c'est quand même Dieu le Fils. Alors, quel est le sens de la colère de Dieu? Selon la lettre aux Romains, comment se révèle la colère de Dieu? Excusez-moi, là. Petite erreur ici dans mes notes. Comment se révèle la colère de Dieu? Comment s'effectue cette révélation de la colère divine? Elle s'imprime directement dans la conscience de chaque individu. Ceux que Dieu a livrés à leur sens réprouvé, pour qu'ils accomplissent le mal sans aucune retenue, connaissant pourtant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Aucun être n'est véritablement ignorant du jugement à venir. Et donc, c'est un petit peu le point que je faisais la semaine dernière. Quand je vais aborder ces questions-là, admettons, à savoir est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'on peut croire dans une vérité absolue? Est-ce qu'il y a une colère divine? Est-ce que la justice existe? Je n'ai pas rencontré à date de personnes comme tellement mêlées dans leur tête puis tellement tordues par le péché dans leur tête qu'il n'y a aucun endroit où ils vont prendre offense du mal. Ça ne m'est pas arrivé. Toute personne avec qui j'ai parlé, si on parle assez longtemps, j'arrive à trouver un endroit où il y a de la colère en lui qui veut venir parce que pour lui, il y a une injustice. Tu sais. Et donc, si tu veux aller à cet endroit-là éventuellement dans la conversation pour pouvoir aller mettre en lumière le fait que tu vois-tu, c'est là toi aussi dans ton cœur. Tu n'as pas lu les Écritures, tu voudrais réécrire quelques chapitres pour que tes péchés à toi ne soient pas des péchés, mais la notion même du péché, tu y adhères. Même si tu penses qu'on est le fruit de l'évolution et qu'il n'y a pas de Dieu qui existe, il y a quelque chose qui est franchement indécent. Ben pourquoi? Je ne comprends pas. Il n'y a rien d'indécent s'il n'y a pas de morale. D'accord? Il n'y a rien d'indécent. La planète, on peut juste continuer à la détruire. De toute façon, on est juste en train de polluer l'univers. On peut juste crever toute la gang. Elle continuera son train, puis il y aura peut-être une autre espèce qui évoluera mieux, puis qui fera mieux les affaires que nous. Hein? Mais non. C'est indécent ce qu'on est en train de faire. C'est indécent de laisser des pauvres mourir de faim. C'est là en eux, et c'est ça que Paul nous dit dans Romains. Maintenant, Dieu livre l'homme à lui-même, à ses sens réprouvés. Il va poursuivre ses propres péchés, mais au fond de lui-même, il y a cette vérité-là qui est présente. Alors, je vous dirais juste pour terminer avec la question de la colère de Dieu, de la rancune de Dieu. Voyez la colère comme l'attribut ou la qualité qui résulte de sa justice et de sa sainteté. Prenez la justice de Dieu, prenez la sainteté de Dieu, ce que ça produit, c'est la colère. D'accord? La colère de Dieu n'est pas une colère qui est injuste. La colère de Dieu n'est pas une colère qui est là pour manipuler. La colère est l'expression du bras armé de Dieu qui vient intervenir devant le mal. C'est littéralement ça. D'accord? Et vous avez tous vécu, probablement, si vous suivez un peu l'actualité, en fait, le général Roméo Dallaire est un bel exemple. Vous prenez un homme, vous connaissez le général Roméo Dallaire? Ça va? Oui? OK? Non? Diriger les casques bleus au Rwanda, merci. Et puis, quand vous l'écoutez parler, le drame que vivait ce monsieur-là, c'est d'être là avec des armes à feu, c'est d'être là avec des hommes en armes, c'est d'être là de voir le mal se faire et qu'on lui interdise d'intervenir. D'accord? Et donc, si vous êtes informé un peu, vous suivez les médias, l'actualité, on a tous vécu une espèce de sentiment de quand on regarde des casques bleus dans un pays où il y a des massacres qui s'en vont, puis les gars, pour avoir une marguerite ici, ils n'ont pas le droit de rien faire. Il faut qu'ils attendent qu'il y ait une balle qui les touche quasiment avant de faire quelque chose, d'accord? Et donc, c'est quoi qui se passe là? On dit, mais ça n'a aucun bon sens. D'accord? Il faut intervenir. Puis si les gars décident d'intervenir, je suis désolé, c'est pas du tai chi qu'ils vont faire. D'accord? Ils vont intervenir rapidement, ils vont frapper le plus rapidement possible, le plus fort possible, neutraliser le plus rapidement celui qui est en train de faire le mal. C'est ça l'idée de la colère de Dieu. Il y avait une question, un commentaire ici. Ah! Oh. Je m'en viens.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est la colère de Dieu contre toute l'impiété.
C'est ça. L'humanité sait au fond d'elle-même qu'il y a quelque chose de mal. Dieu les livre à eux-mêmes. Merci.
Ça me fait rappeler que...
Juste parler dans le micro, s'il te plaît.
La colère de Dieu, c'est un peu comme un père qui châtie son enfant qui a mal agi, tu sais, dans le sens que qui aime bien, châtie bien. C'est dans l'amour.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça notre... Absolument. Alors, tout ceci pour dire exactement que nous, on n'est pas appelés à agir suivant cette colère-là, d'accord? Et lorsqu'on subit des injustices, notre réconfort est de savoir que c'est Dieu qui va faire justice et on doit aller porter ces choses-là à Dieu. À plus forte raison, parce que nos motifs sont généralement doubles, sont rarement clairs, on est rarement sain comme Dieu dans notre colère. Des fois, on l'est au début, puis après ça, on commence à se prendre au sérieux. C'est ce qui fait qu'on va dire, oui, mais tu vas jamais corriger ton enfant, donner des conséquences à ton enfant sous la colère, poussé par la colère, parce qu'on demeure en lutte constante avec cette vieille nature-là qui nous amène à faire les choses, non pas avec sainteté. Mais en même temps, je le dis souvent dans l'Église ici, on doit lire les journaux, on doit se tenir informé sur l'actualité avec les yeux grands ouverts. Et lorsqu'on voit l'injustice et le mal, puis la colère vient, Dieu est en train de nous dire, prie Yannick, prie. Ce sentiment-là que tu as, là, imagine ce que moi je ressens. Imagine ce que je réserve à ce monde. Je suis en train de te dire de prier. Tu vois le monde avec mes yeux. Tu dois devenir un intercesseur. Ce que Dieu est en train de me dire, parle Yannick. Ouvre la bouche, parle, annonce à ce monde-là. Vous voyez? Et donc, je ne vais pas fermer les yeux. Je vais ouvrir les yeux grands comme ça, puis je vais le porter, ça. Quand ça devient trop lourd, c'est ça que je fais. Je m'en vais au Seigneur, puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Sauve et viens faire justice pour que le mal s'arrête. Parce que ton nom est méprisé, parce que les hommes souffrent du mal, parce que tu les as livrés à eux-mêmes. D'accord? Et donc, on doit être connecté sur notre monde avec des yeux grands ouverts, puis lire avec le regard de Dieu ces vérités-là. Ça va? La bonté et la sévérité de Dieu. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et donc, on doit apprendre à vivre avec le fait que Dieu est à la fois bon et sévère. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. C'est pour ça que je dis voir en Jésus quelqu'un qui est juste encourageant, juste positif, juste Dieu bonbon, c'est vraiment très mal lire Jésus. C'est vraiment très mal lire les évangiles, d'accord? Et bon, ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que toute la beauté, la douceur, la grâce de Dieu, sa bonté est toute là, puis toute la beauté de sa sainteté est présente aussi. Donc, la semaine dernière, je rencontre une jeune fille qui se pose des questions, tout ça. Je lui dis, regarde, commence par les évangiles, va lire les évangiles. Et par la grâce de Dieu, par l'influence de l'Esprit-Saint, j'espère qu'elle va sentir en lisant à la fois la douceur, la tendresse de Jésus, puis en même temps son intransigeance. Qu'elle va sentir que, mais c'est bien lourd cette affaire-là si j'essaie d'être comme Jésus veut que je sois. Tu sais, il est extrême. Il accueille la prostituée parce qu'elle est repentante, puis il défend celui qui souffre de l'injustice. Puis d'un autre côté, il dit, si tu aimes plus ton père, ta mère, tes enfants que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Comment tu réconcilies tout ça, d'accord? Et donc, c'est ça, j'ai la bonté, j'ai la sévérité de Dieu qui se retrouve en Jésus-Christ. Et pourtant, la doctrine du Père Noël porte en elle-même les germes de sa ruine. Alors, la théologie contemporaine, la pensée contemporaine sur la personne de Dieu veut juste mettre de côté la sévérité de Dieu, d'accord? Mais à partir de du moment où tu fais cela, tu vas finir avec un Dieu qui n'existe vraiment pas et qui ne ressemble pas du tout au Dieu de la Bible. Suivez le raisonnement ici. Car elle ne peut rendre compte de la réalité du mal. Et c'est ça le problème. C'est que si je mets de côté la sévérité, je peux pas expliquer le mal dans le monde. Ce n'est pas un hasard si au moment même où, au début du siècle, se répandait la croyance au bon Dieu du libéralisme, ce que l'on a appelé le problème du mal et qu'on ne considérait pas comme un problème auparavant, est soudain devenu le souci numéro un de la défense de la foi chrétienne, de l'apologétique chrétienne. À partir du moment où tu mets tout ton accent sur le fait que Dieu est bon, ben là tu as un problème. Tu ne sais plus comment expliquer le mal puis le fait que Dieu laisse le mal être présent dans le monde. D'accord? Tu n'es plus capable d'expliquer ça. Parce que Dieu n'est pas que bon, Dieu est juste, il est saint. D'accord? La chose était inévitable car il n'est pas possible d'attribuer à la bienveillance du Père Noël tout ce qui est source de destruction et de souffrance comme la cruauté, l'infidélité conjugale, les accidents de la route ou le cancer. La seule façon de s'en sortir était de dissocier la personne de Dieu des choses de ce type, de ce genre, et de nier l'existence de relations directes entre elle ou Dieu ou d'un quelconque contrôle de Dieu sur elle. En d'autres mots, il fallait nier son omnipotence et sa souveraineté sur le monde réel. Est-ce que vous suivez ça? Non? Est-ce que Dieu est souverain? S'il est souverain, qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il est souverain, moi j'interviendrai. Est-ce qu'il est tout puissant? Oui, il est tout puissant, mais où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est parti prendre un café, ton Dieu. Non, mon Dieu n'intervient pas dans l'histoire de l'humanité. Il propose aux hommes de marcher avec lui. Si les hommes ne veulent pas, ils sont libres à eux-mêmes. Ils sont donc responsables de tous leurs choix. Puis Dieu va juste leur dire, je vous offre le bonheur, vous ne l'avez pas pris, qu'est-ce que vous voulez? Comprenez? J'ai pas le choix, là. Non, Dieu est souverain, il est tout puissant, il est omniprésent, il voit toutes choses. Et il va juger toutes choses. Il est sévère. Mais il est bon aussi, jusqu'à donner son Fils, qui vient mourir sur la croix. Voyez-vous, j'arrive à la beauté glorieuse de l'Évangile. Et vous devez détecter ça, encore une fois, ce qui s'est passé au début du 20e siècle, là. C'est un livre qui a été écrit au 20e siècle. Au début du 20e siècle, ce qui s'est passé, c'est que les théologiens qui étaient mal à l'aise, comme j'ai mentionné, avec le miraculeux, ont commencé à dire, ouais, peut-être faut pas trop mettre l'accent là-dessus, peut-être en fin de compte, ça se défend pas vraiment. Après ça, ils ont dit, bon, ben, si on veut présenter Dieu, on va mettre tout l'accent sur la bonté de Dieu, c'est le Dieu qui est bon. Mais là, comment tu fais pour expliquer juste le Dieu bon, si il n'est pas en train d'intervenir contre le mal. Donc là, tu as un problème qui apparaît, c'est le problème du mal. Tu ne sais pas comment expliquer pourquoi est-ce que le mal est là si Dieu est là. Donc Dieu n'est plus tout puissant, d'accord? Dieu n'est plus souverain. Dieu n'est plus omniscient, il ne sait pas toutes choses. Ça va? Et donc, vous devez être attentif à ça dans votre vision de Dieu, dans votre lecture des Écritures, dans l'enseignement que vous apportez dans votre maison. Puis vous voyez que ça peut déraper très rapidement, là, dans le sens qu'on peut mettre tout l'accent sur la colère de Dieu, puis sur la justice de Dieu, puis la sévérité de Dieu. Puis encore là, je vais perdre l'Évangile complètement. Je vais déposer un fardeau sur le cœur des hommes où ils vont dire, « Mais, comment je peux être heureux avec un Dieu qui voit tous mes péchés? Je veux me rendre à la croix. » Et c'est pour ça que dans la Réforme au 15e siècle, ce que Martin Luther, pas Martin Luther King, ce que Martin Luther, le réformateur allemand, a redécouvert, c'est simplement ça, c'est l'Évangile. Il était dans une église catholique où il était un théologien, il enseignait sur l'Épître aux Romains, c'était son livre qu'il enseignait, et puis il faisait pénitence tous les soirs parce qu'il voyait bien la sévérité, la justice, la sainteté de Dieu, et chaque fois qu'il examinait son cœur, il retrouvait le péché, alors retournait faire pénitence, et à un certain moment donné, la beauté, la gloire de l'Évangile l'Évangile. Bing! Le Seigneur a ouvert ses yeux. Puis il a dit, mais c'est pas ma justice qui va faire que Dieu va m'aimer. C'est la justice de Christ. D'accord? Mais Martin Luther a défendu la beauté de l'Évangile. Il a prêché la beauté de l'Évangile comme peu de gens le font aujourd'hui parce qu'il avait mesuré la sévérité, la sainteté et la justice de Dieu. Alors, c'est correct. C'est correct que des gens viennent ici, dimanche après dimanche, écoutent les messages, puis tant que le Saint-Esprit ne les éclaire pas, ça n'existe pas l'Évangile. Et puis là, ils écoutent, puis là, on est dans les 10 commandements. Puis là, ils disent, mais c'est un fardeau qui est déposé sur mes épaules. Comment je peux respecter ces 10 commandements-là? Ça n'a pas d'allure. C'est correct dans un sens. Si ça ne s'arrête pas là, évidemment, on veut qu'ils se rendent à l'Évangile. Mais il doit y avoir cette espèce de cri-là lorsque je saisis l'Évangile où je dis « la liberté de ma conscience, la liberté du pardon, la liberté de la grâce, la liberté de savoir que c'est lui qui est responsable de produire cette performance-là de sainteté en moi que j'arrive pas à faire. » Ma conversion, ça s'est résumé à ça. « Seigneur, je suis plus capable d'essayer de renaître la patente moi-même, ça va n'importe où, je suis pourri là-dedans, prends le volant. » C'est encore un aspect de ça, vous voyez? Puis en un instant, j'ai juste dit, c'est toi qui dirige. Moi, je suis en train de tout scraper la patente. Et ça a été une bouée. Je me suis accroché à lui. C'est lui. Maintenant, c'est lui qui est responsable des performances. C'est pas moi. Dans le sens qu'il me pardonne et me sanctifie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'efforts à faire. Ça va? Je vais avancer un petit peu pour couvrir un petit peu plus de matière. Juste avant de parler quelques minutes du Dieu jaloux, comment résumer ici le mariage de la bonté et de la sévérité de Dieu? Premièrement, sachons reconnaître la bonté de Dieu. Faisons le compte à tous les jours. D'accord? Vous ne voulez pas devenir un chrétien qui est toujours sous la sévérité de Dieu. Parce que ça serait tellement faux juste dans sa révélation générale, juste dans la nature, juste dans le fait qu'on est ici, on n'est pas en train de geler. Peut-être qu'il y en a qui gèlent, moi je suis bien. Des gens avec un petit café, assis sur un fauteuil, vous voyez? La bonté de Dieu est manifeste partout. On s'est levé ce matin, il y a un band qui a pratiqué et qui va nous conduire tout à l'heure dans la louange. C'est ça des manifestations de la bonté de Dieu. Apprenons à compter les bontés, les bienfaits de Dieu, très brièvement. Ben, allez-y avec le premier que vous avez là. Je peux juste vous le redire, puis vous pourrez le relire. Romains 11, 22, d'accord? Romains 11, 22, d'accord? Mais après ça, pensez à tous les passages où Dieu va dire qu'il ne ferme pas les yeux, que Dieu voit, que Dieu juge. Lisez les prophètes, lisez Ésaïe, lisez Daniel. C'est difficile de lire ces livres-là, spécialement Ésaïe, qui est un de mes livres préférés dans la Bible, mais Paul était constamment devant ce Dieu-là qui voit les cœurs, qui discerne les cœurs, puis qui voit le péché en nous. Deuxièmement, sachons reconnaître la patience de Dieu. Pensons à ce qu'il a supporté de notre part et à ce qu'il supporte encore. Alors, comment je vis avec la sévérité et la bonté de Dieu? Je dois penser à sa patience, d'accord? Et donc, le matin, lorsque je me lève, c'est pas seulement « Merci Seigneur parce que tu me permets de vivre aujourd'hui, d'être avec ma famille », c'est « Merci Seigneur, la fin peut arriver, il y a encore des centaines de personnes qui vont accepter Jésus aujourd'hui ». C'est ça la vérité. Il y a encore des centaines, voire des milliers de personnes dans le monde qui vont être sauvées aujourd'hui. Wow! C'est extraordinaire. C'est la patience de Dieu qui est manifestée là, d'accord? Sachons accepter la discipline de Dieu. Il est à la fois notre appui, en dernière analyse, celui qui nous entoure par devant et par derrière. Et donc, il faut accepter que Dieu nous demande de nous appliquer, Dieu nous demande de marcher. Dieu nous châtie, Dieu nous corrige lorsqu'on ne marche pas dans ses voies parce qu'il nous aime. Et sa sévérité va être là, elle va entrer en jeu, d'accord? Quelques minutes sur cette idée du Dieu jaloux. Parce que c'est un autre attribut de Dieu avec lequel, on a de la difficulté à délai, on pense à notre jalousie. Puis en même temps, c'est pas celle-là, puis c'est pas si loin que ça. D'accord? Exode 34, 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Qui n'aurait jamais pu imaginer qu'il se soit trouvé en Dieu de la jalousie? Juste vous mentionner, toutes ces questions-là, là, c'est des questions qui remontent à peu près à 150 ans maximum. D'accord? Vous remontez 200 ans avant, je ne prendrai pas du temps pour parler de ça. Ça serait tout clair dans votre esprit, personne ne serait en train de discuter ça. D'accord? Mais on est à une autre époque, les gens voient les choses autrement. Chaque époque a ses péchés, chaque époque a sa philosophie. Et donc, ça nous demande d'aller clarifier ces choses-là. Si on oublie la parole de Dieu un instant et que nous pensons simplement sur le plan humain, quelle serait votre définition de la jalousie? Quelqu'un qui veut me donner une définition de la jalousie, oubliez la Bible, essayez pas de défendre Dieu. C'est quoi votre définition de la jalousie? Brièvement, il me reste 5 minutes. Pardon? L'envie, Esther? OK, ne pas partager quelque chose que j'ai de précieux, Camille? OK. OK, donc il y a deux sortes de jalousie. Celle qui va m'amener à convoiter le bien de mon prochain. Je suis jaloux de ce qu'il possède. Puis il y a celui qui veut protéger ce qui est à moi, dans le sens, si c'est mon amour pour mon épouse, ça va être ça. Maintenant, c'est difficile pour nous d'imaginer facilement la jalousie comme étant quelque chose d'entièrement sain, d'accord? La jalousie ressemble plutôt à une cage, à quelque chose qui enferme, quelque chose qui enchaîne. Et on vit à une époque, ceux qui sont vieux comme moi, vous allez vous rappeler de la chanson de Marjo, hein? Vivre et laisser vivre. Alors, c'est ça l'idée qui est là, c'est de dire jamais, il ne faut pas mettre en cage, il faut laisser partir dès que la personne veut partir, d'accord? Donc, pour nous, humainement, sans référence biblique, oui, OK, en même temps, les plus belles histoires d'amour qu'on voit souvent dans les grands classiques sont des histoires où il y a cette idée que tu es à moi, je suis à toi, où les deux amoureux se déclarent ça, d'accord? Pensez à Roméo et Juliette, évidemment. En étudiant un tel sujet, nous voulons nous rappeler que la Bible nous a été donnée comme une révélation de Dieu. Ce que nous voulons, c'est rester à l'écoute de ce que dit l'Écriture sainte, dans laquelle Dieu lui-même nous révèle la vérité sur sa personne. Et donc, je dois aller vers les Écritures en disant, c'est quoi la part de projection que moi je fais, puis c'est quoi la part où je suis en train d'imaginer Dieu autrement que ce qu'il est. Exode 34, 14, « Moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » La jalousie qui se trouve en Dieu le pousse à l'action. Elle apparaît constamment comme un mobile d'action, que cette action soit miséricordieuse ou punitive. Je serai jaloux de mon saint nom. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Maintenant, je pense que la manière la plus simple et la plus rapide de se réconcilier avec cette idée de la jalousie de Dieu, c'est de grandir dans notre compréhension du fait que Dieu est le souverain bien. Dieu est ce qu'il y a de meilleur parce qu'il est Dieu. Dieu, ce n'est pas juste le réfrigérateur dans lequel tu trouves ton bon dessert. Dieu, c'est le bon dessert. Dieu, c'est le bon repas. Dieu, c'est ton air. C'est lui qui te la donne. Dieu est ce qu'il y a de mieux dans tout l'univers. C'est lui qui a créé l'univers, d'accord? Et donc, ce que Dieu veut donner aux hommes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et lorsque l'homme fait alliance avec Dieu, il devient jaloux de garder l'homme dans cette alliance-là, de le garder dans ce qu'il y a de meilleur, d'accord? Maintenant, si vous pensez aux divinités grecques, si vous pensez aux divinités hindoues, si vous pensez à tout ça, vous allez voir toutes sortes d'êtres assez tordus et pervers qui sont des êtres jaloux, mais tellement à la ressemblance de notre jalousie à nous, d'accord, que là, ça ressemble à des cages. Mais en réalité, ce que Dieu est en train de dire, c'est « je suis jaloux de ma sainteté ». Je suis jaloux de ce que je suis, car je suis le souverain bien et je vais protéger ça. Je vais protéger cette sainteté. Par exemple, je vous donne un exemple. On vit peut-être pas dans le plus meilleur pays du monde, mais pas loin. OK? C'est quand même confortable de vivre ici. Demain matin, vous avez une gang de Taouins qui s'en viennent, qui se présentent aux lignes, puis qui décident de venir détruire tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être jaloux de ce pays de liberté, d'abondance, de liberté qu'on possède? Est-ce qu'on va être jaloux de ce pays qui offre asile à des gens et qui les aide à se refaire, à reconstruire une vie? Est-ce qu'on va être jaloux de ça? Est-ce qu'on va vouloir protéger cela? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de mal en cela? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de mal là-dedans? Ou on devrait dire, bof, tu sais, regarde, moi, je veux dire, ils arrivent aux lignes. D'après moi, ils sont en train d'envahir, ils vont prendre le contrôle, il me reste, admettons, 5-6 ans à vivre, ça ne devrait pas trop m'affecter, tant pis. Non! Vous vivez dans une ville, la ville est belle, la ville est propre, la ville est soignée. Il y a une fierté qui est là. Vous promenez dans cette ville-là, puis il y a des graffitis qui commencent à augmenter, ça commence à être mal propre, les gens ne la respectent pas, les gens ne s'occupent pas de leur maison, ça, c'est de plus en plus n'importe quoi. C'est quoi le sentiment qui se construit en vous? Est-ce qu'il n'y a pas une jalousie, une fierté de cet endroit-là qui était quelque chose? D'accord? En voyez-vous, il y a cette jalousie sainte qui est là. Mais Dieu est le souverain bien. Et Dieu est jaloux de son nom, de sa sainteté. Et lorsqu'on entre en alliance avec lui, il va être jaloux de cette communion-là. Je vais pratiquement terminer. Quelle est donc la nature de la jalousie divine? Comment se fait-il que la jalousie puisse être une vertu chez Dieu et un vice généralement chez l'homme? Les perfections de Dieu sont des sujets de louange, mais comment pouvons-nous louer Dieu pour sa jalousie? Premièrement, lorsque la Bible parle de la jalousie de Dieu, elle utilise un vocabulaire anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle veut nous aider à comprendre que Dieu a à cœur, Dieu chérit, Dieu veut protéger, d'accord? Mais lorsque Dieu utilise ce langage-là, je ne dois pas projeter ma nature pécheresse dans ma compréhension de ce que Dieu est. Deuxièmement, il existe chez les hommes deux sortes de jalousie, on l'a évoqué, dont une seule est un vice. Il y a une jalousie qui est une disposition du cœur ou de l'esprit que l'on peut résumer en ces termes. Je désire ce que tu as et je te hais parce que je ne le possède pas. Celle-là est un vice, c'est de l'envie, on l'a mentionné tantôt. C'est une jalousie terriblement puissante car elle se nourrit d'orgueil. Elle nourrit l'orgueil, cette racine de notre déchéance. Il existe un autre genre de jalousie qui se traduit par une ardeur extrême à protéger une relation d'amour ou à la venger lorsqu'elle est brisée. Cette jalousie se rencontre également dans le domaine même de la sexualité où on veut protéger cette intimité-là qu'on a dans notre couple, dans notre mariage. Mais elle n'a rien à voir avec la réaction aveugle d'un orgueil blessé, elle apparaît plutôt comme un fruit de l'attachement conjugal. Le professeur Tasker écrivait que des époux qui n'éprouveraient aucune jalousie, si une tierce personne, amoureux ou amant, s'introduisait dans leur foyer, manquerait certainement de sens moral, car l'essence même du mariage est son caractère exclusif. Et lorsqu'on disait tout à l'heure dans Romains 1, je vais terminer avec ça, lorsqu'on disait tout à l'heure dans Romains 1 que Dieu a livré l'homme à ses sens réprouvés, ben on arrive à une époque où des auteurs, des écrivains comme Alexandre Jardin, par exemple, si vous lisez un peu, arrivent avec une vision de l'amour qui est hyper libertine. C'est-à-dire que c'est une vision de l'amour où c'est un moment, c'est une rencontre, c'est un instant. Et moi, j'ai connu dans mon entourage personnel, d'accord, des gens très chers à mon cœur, qui étaient des libertins profonds. Tout ce qu'ils voulaient dans leur couple, c'est que l'un et l'autre aient leur amant et leur maîtresse. Parce que c'était leur vision de l'amour, d'accord? Ce que les Écritures nous disent, c'est que c'est une vision de l'amour qui est le fruit du fait que Dieu livre l'homme à lui-même. D'accord? Et donc, on va trouver ça en partie dans la culture française, chez une certaine élite française qui va avoir cette vision-là de l'amour hyper libertine où on s'aime, mais on s'aime assez pour se laisser libre d'aimer d'autres mondes puis de vivre d'autres choses. D'accord? Oui, Esther, je pense avoir le mot de la fin, chérie. Tu veux juste le répéter, s'il te plaît?
Il y a quelque chose qui me rassure dans la jalousie de Dieu, c'est l'assurance de mon salut. Dieu m'aime et il ne veut pas me perdre.
Oui.
Fait que ça me rassure.
Absolument. Dieu nous aime, nous chérit. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Esther disait qu'une chose qui la rassure dans la jalousie de Dieu, c'est pour l'assurance de son salut. Dieu a fait une alliance. Il l'a fait au prix de son sang. Pensez aux classiques les plus dramatiques. Ce sont des choses qui se scellent par le sang, par la mort de l'amoureux qui va mourir pour sa Juliette, d'accord? Mais c'est ça que Dieu a fait. C'est ça que Dieu a fait. Et donc, ça nous dit aussi à quel point il va persévérer dans son amour envers nous. C'est une belle conclusion. On va terminer avec un mot de prière. Éternel, notre Dieu, on veut t'adorer dans toutes tes facettes, dans tout ce que tu es, Seigneur. Et je prétends pas bien saisir vraiment ta personne et toujours être en paix avec tous les aspects de ta personne, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es saint, et vraiment saisir la sainteté, c'est quelque chose dans lequel nous grandissons de jour en jour. Plus tu formes Christ en nous. Et donc, ce n'est pas acquis pour nous, Seigneur. Et on fait beaucoup de projections dans tout ça. On projette, Seigneur, dans ce que tu es, dans notre compréhension de ta personne, beaucoup de péchés, Seigneur, beaucoup de ce que nous sommes nous-mêmes. Et viens te révéler à nous, viens nous aider à voir la beauté d'un Dieu qui n'abandonnera pas sa création, qui va la poursuivre pour la sauver d'elle-même, à cause de la gloire de son nom, à cause de son amour profond pour sa créature, sa création. Aide-nous à grandir dans notre compréhension de ce Dieu qui est saint et qui va intervenir ne laissant pas le mal impuni, mais qui va défendre la victime, l'innocent, au plus grand malheur des hommes, parce qu'aucun d'entre nous l'est vraiment, Seigneur. Alors merci pour ton amour en Jésus-Christ, ta grâce. C'est en son nom que nous te prions. Amen.